Je m'appelle Stéphane Perona et je suis présidente d'une association qui s'appelle Beshtearekin, qui veut dire avec l'autre en basque. Et je prends la suite donc du père qui nous a parlé d'hospitalité pour vous donner un peu une illustration de ce qui peut se faire ici à travers ce qu'on fait nous, mais pas que, parce que j'ai retenu dans ce que le père a dit, il a parlé des frontières. Tout le monde a bien remarqué qu'on est au bord d'une frontière et qu'il y en a une dont on parle beaucoup en ce moment, même si c'était la Roya qui avait été évoquée, celle qui en ce moment fait l'actualité, c'est plutôt celle qui est près de chez nous, puisque le principal flux migratoire depuis les pays d'Afrique et d'autres même, passe maintenant par l'Espagne et non plus par la Grèce comme ça a été le cas, ni par l'Italie, mais par l'Espagne et principalement par Irun. Plus de la moitié du flux migratoire de l'année dernière est passé par Irun. Donc ça fait des milliers de personnes et on est sur la route. Bayonne, c'est la première étape juste après ce qui se passe. Et cette question de frontière qui est un seuil m'a interpellée parce que j'ai trouvé que on avait l'illustration ici de ça, de la frontière qui est ou n'est pas un seuil. Et on a les deux, puisque elle n'est pas un seuil parce que la police et les pouvoirs publics se donnent énormément de mal pour empêcher qu'il ne passe et ramène tout ce flux migratoire indéfiniment en Espagne, et ils passent le pont à Hendaye, et hop, on les ramène de l'autre côté. Ils reviennent par le pont, par ailleurs, par la montagne, mais ils reviennent. Donc là, on voit vraiment que la frontière n'est pas un seuil, c'est un mur, définitivement. Mais juste après, à Bayonne, et sur l'ensemble du Pays Basque, on voit aussi des cas où c'est un seuil, et où la population s'est mobilisée pour héberger, très souvent, et même les collectivités, puisqu'il y a le très beau geste du maire de Bayonne qui a décidé d'ouvrir un centre d'urgence très courageusement pour accueillir les personnes en transit, puisque souvent le projet de ces personnes n'est pas de s'arrêter à Bayonne, c'est de continuer vers une grande ville, voire un autre pays, l'Allemagne, l'Angleterre ou autre. Ces personnes arrivent très souvent d'Espagne épuisées, très déshabillées, puis ils viennent là, ils arrivent dans le froid, surtout là pendant l'hiver, ils sont arrivés dans le froid, malades. Beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes enceintes, pratiquement tout le monde malade, donc extrêmement démunis. Et il a posé ce très beau geste de décider de les recevoir, de les accueillir pendant quelques jours, le temps qu'ils se reprennent souffle, pour pouvoir continuer leur route. Donc à Bayonne, il y a un centre qui est fait normalement pour accueillir 100 personnes et qui en accueille entre 200 et 300 tous les soirs, ce qui fait un flux de 2 à 3 000 personnes par mois qui passent là. Et puis tous les beaux gestes de solidarité qui vont autour, les personnes qui accueillent, qui viennent aider, qui viennent donner un coup de main, qui viennent apporter les biens de première nécessité, mais aussi qui ouvrent leurs portes chez eux pour accueillir ceux qui veulent rester là plus longtemps. Ils ne peuvent rester normalement que 3 jours dans ce centre d'urgence. Ceux qui veulent rester plus longtemps, notamment les enfants. Il y a énormément d'enfants, des mineurs, qui s'apercevant qu'il y avait de l'hospitalité au Pays Basque, décident de rester là. Et il y a des réseaux d'hébergeurs qui ont ouvert leurs portes et qui font le chemin pour que ces enfants puissent être accueillis et obtenir un titre de séjour ici. Cette catégorie de migrants, qui est très important ici, auquel il faut qu'on ouvre nos cœurs, nos prières quand on peut, ça n'est pas du tout la catégorie de migrants, d'exilés que nous accueillons et que nous accompagnons à Beshtearekin. Beshtearekin, nous sommes une association qui est l'émanation d'un collectif qui comprend 7 grosses associations. Beaucoup sont professionnels, le Secours catholique, le CCFD Terre solidaire, la CAT, à chaque fois il faut que je reprenne.
Quand je dois faire la liste, j'ai toujours pas en tête, il faut que je la lise, parce que
je reprends. Alors le CCFD Terre solidaire, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, le Secours catholique et la CAT. Nous sommes, nous, une association qui avons fait un choix il y a 7 ans, à la demande du CADA. Un CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il y en a un à Bayonne, où les personnes qui souhaitent demander l'asile mais n'ont pas encore fait les démarches sont accueillies le temps de faire de remplir leur dossier, d'attendre la réponse, et ça prend un temps de plus en plus court, mais quand même relativement long. On est un peu en dessous d'un an maintenant. Quand nous avons commencé notre travail, il y a 7 ans, il restait 3 ans au CADA. Nous avons fait le choix d'accueillir des familles avec des enfants mineurs pour pouvoir les aider à poursuivre leur démarche de régularisation dans le cas où la première demande d'asile qu'ils ont faite pendant qu'ils étaient au CADA n'a pas été couronnée de succès et on leur a donné une réponse négative. Ils deviennent ce qu'on appelle des déboutés du droit d'asile. Nous avons choisi d'accueillir des enfants parce que le CADA nous avait dit que les familles qui n'ont pas d'enfants ou les personnes seules ayant été envoyées au CADA de Bayonne de façon artificielle, ils n'avaient pas choisi de venir à Bayonne, repartent. Par contre, les enfants qui sont restés au CADA au moins un an, les familles ont commencé à faire racine et ils souhaitent rester là. C'est pour ça que nous avons choisi d'accompagner ces familles-là. Pour pouvoir les aider à accéder à l'autonomie et, comme ça a été répété plusieurs fois par le père, la fameuse intégration qui est extrêmement importante, bien sûr, pour eux. Il ne s'agit pas seulement de les remettre un toit, un lit, leur donner à manger, ce que nous faisons bien sûr, leur donner accès à tous les besoins vitaux et essentiels. Il s'agit qu'ils soient parfaitement intégré et autonome. Le mot autonomie n'avait pas été prononcé, mais pour nous, il est très important. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils ne soient plus dépendants de nous, alors qu'ils l'ont été pendant des périodes assez longues, parce que quand ils ont été déboutés, ils rentrent dans une zone de turbulence terrible, où ils n'ont plus aucun droit, ou presque. Il y a les droits liés aux enfants, parce que c'est imprescriptible en France, mais sinon ils perdent le droit de travailler, qu'ils n'avaient pas eu, mais ils n'ont pas le droit de travailler, donc ils n'ont aucun moyen de subsistance, et ils seront totalement dépendants d'associations comme la nôtre. Ce qui me ramène à quelque chose que le père a évoqué aussi, c'était la question effectivement de la durée. Où il a dit que la valeur de l'hospitalité doit être provisoire et doit laisser la place à l'appartenance. Alors, c'est le mot qui avait été employé, c'était l'appartenance, qui est le pendant de ce que nous appellerions l'autonomie. Mais c'est un petit peu ça, parce que l'autonomie, ça veut dire qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, mais l'appartenance, ça veut aussi dire qu'ils ont fait des racines ici. Et notre expérience montre que de toutes les familles que nous avons accueillies et accompagnées, il y en a maintenant beaucoup, des dizaines, pour lequel je suis très fière de dire et de remercier ceux qui ont contribué, qui sont dans la salle, à faire que toutes les familles que nous avons accueillies et accompagnées ont toutes accédé à cette autonomie. Elles ont toutes obtenu un titre de séjour et elles sont toutes devenues indépendantes. Et sur la totalité de ces familles, il n'y en a qu'une qui a fait le choix de quitter le Pays Basque. Toutes les autres sont restées sur le territoire et même très souvent dans le petit village où on les avait mis, parce que c'est là-bas qu'on avait un logement, et où ils étaient partis complètement à reculons, et pas du tout, en essayant de nous persuader de ne pas aller les mettre là-bas, parce qu'il fallait absolument, les appartements du CADA sont à Bayonne, et ils souhaitent rester à Bayonne, où les enfants étaient scolarisés, où ils avaient commencé à prendre racine, à faire tisser des liens. Quand on leur annonce qu'il faut aller à Tardettes, par exemple, parce que c'est ça, ou même plus loin, ils essayent vraiment de nous expliquer que ce n'est pas possible d'aller là-bas. Et c'est vrai que c'est difficile de les déraciner, d'avoir l'impression qu'on les déracine une fois de plus, après ces parcours terribles qu'ils ont vécus, des dangers qu'ils ont subis dans leur pays, les discriminations qu'ils ont subies dans leur pays, les parcours qu'ils ont eus, le fait qu'ils sont arrivés ici plein d'espoir. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit de la foi, qui a été évoqué, la foi, et je veux témoigner de cette foi qu'ils ont, pas du tout une foi religieuse, mais de la foi absolue qu'ils ont dans le fait qu'ils vont être accueillis ici. Mais ils en sont complètement convaincus. Et je rappelle que nous accueillons des personnes à qui on a dit non. Or, très souvent, au moment où ils arrivent dans le CADA de Bayonne, on les prévient qu'il y a toutes les chances qu'ils aient un refus. Ils n'y croient pas une seconde. Ils ont cette foi chevillée au corps qu'on va les accueillir. Ils sont au courant de leur histoire. Ils savent qu'ils ont vécu des choses terribles, que ce qu'ils ont vécu dans leur pays et qui les a fait partir. C'est des familles avec des enfants, arracher ses enfants à sa famille, à son, dire au revoir aux grands-parents qu'on ne reverra jamais, leurs amis qu'ils ne reverront jamais, les écoles où ils étaient, où ils ne retourneront jamais. Prendre cette décision pour des parents, il faut vraiment qu'on ait des bonnes raisons. Ce n'est pas un promenade de santé qu'on vient faire. Donc, ils savent, ils connaissent leurs histoires, ils arrivent ici et ça leur paraît impensable qu'on leur dise non. Ils sont bougés par cette foi, qui est la même foi que celle d'Abraham qui a été évoquée. Ils viennent, ça va être oui. Les décisions d'accorder l'asile ou pas sont des décisions qui sont d'un arbitraire qui est totalement révoltant. Vous arrivez d'un pays qui est en guerre et dont on parle, comme la Syrie, l'Irak, vous êtes assuré d'avoir l'asile sans le statut de réfugié. Si vous arrivez avec le mauvais passeport, même si vous venez d'un pays où il y a encore la guerre, mais on n'en parle pas, par exemple l'Ukraine, où il y a encore la guerre dans l'Est, mais on n'en parle plus de cette guerre-là, ou si vous venez d'un pays dont on prétend qu'il est sûr, il y a des classements, des classifications de pays qui sont déclarés sûrs. Pourquoi sont-ils déclarés sûrs? Ça tient la plupart du temps pas à une réalité forcément physique, mais plutôt aux relations diplomatiques qu'on veut avoir avec ce pays-là. On ne veut pas se fâcher avec eux. Ils ont éventuellement demandé un jour à rentrer dans l'Union européenne. Ou bien on leur donne beaucoup d'argent pour qu'ils gardent les exilés, qu'ils les bloquent. Hein. Vous voyez de quel pays je veux parler. Les milliards qui ont été dépensés avec la Turquie pour qu'ils les gardent. Donc, en Turquie, il y a une zone qui s'appelle le Kurdistan, qui est en guerre, et une partie du Kurdistan est en Turquie. Vous arrivez du Kurdistan, vous avez pris les bombes, vous avez vécu la guerre. Si vous avez un passeport irakien, syrien ou afghan, puisque c'est aussi le Kurdistan à cheval là-dessus aussi, vous êtes sûr d'avoir l'asile. Mais si vous arrivez avec un passeport turc, et ben c'est raté, vous allez être débouté, alors que votre réalité, elle est la même que celui d'à côté. Donc ça, c'est pour illustrer l'arbitraire qui peut y avoir, et qui fait que quand ces familles avec le mauvais passeport arrivent au CADA, le CADA sait très bien qu'on va leur dire non. Ils viennent pour demander l'asile, on a dit oui, donc ils vont remplir les dossiers, mais ils nous préviennent dès le départ, ben ceux-là, de toute façon, ils sont déjà sur la sortie. Ça va être pour le Shtearekin très rapidement. Ils essayent de prévenir les familles, mais elles n'y croient pas une seconde. On a beau leur expliquer que tous les gens qui viennent d'Ukraine, du Kurdistan turc, et il y a d'autres pays dans ce genre-là, je cite par exemple beaucoup de pays des Balkans, où on ne parle plus de la guerre, mais où il y a eu la guerre et où il existe encore beaucoup de discrimination, soit pour des raisons religieuses, mais surtout parce que la mafia règne en maître, et la corruption dans tous ces pays-là, comme l'Albanie, le Kosovo, la Macédoine, la Serbie, ce sont des pays où la mafia fait ce qu'elle veut et où la police est corrompue par la mafia. Donc quand vous subissez des sévices et des discriminations et que votre vie est en danger ou que même sans aller jusqu'à mourir, il peut vous arriver des choses graves, à vous ou à vos enfants, on sait eux savent qu'il ne faut pas aller se plaindre à la police parce que c'est pire. Dans la minute, la police va téléphoner à la mafia qui vous fait des malheurs et que tout va redoubler. Donc, systématiquement, ces pays ont été classés sûrs. Donc, quand on vient d'un pays de ces pays-là, on est sûr d'être débouté, quelle que soit son histoire. Et je peux vous en raconter des histoires terribles de familles qu'on accueille et qu'on accompagne, où ils ont pris des balles, ils ont encore les balles dans leur corps, des cicatrices qui ont été laissées, physiques, psychiques, mentales, où ils sont dans les camisoles chimiques, tellement ce qu'ils ont subi là-bas les empêche de vivre normalement. Ils font des séjours dans les hôpitaux psychiatriques sans arrêt. Malgré tout, ce qu'ils ont vécu ne compte pas. Et ils vont être dégoûtés parce qu'ils ont le mauvais passeport. On le leur explique depuis le début, mais il y a cette foi qui est là tout le temps. Non. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Ils ont un premier refus devant un premier organisme qui s'appelle l'OFPRA. C'est non. Donc là, tout le monde commence à leur dire bah, « ça sent le roussi, là. Vous n'avez pas beaucoup de chance ». Ils continuent à croire parce que derrière, il y a un recours qui se fait devant une cour d'appel. Devant donc un tribunal, un juge, où ils peuvent aller raconter leurs histoires, et ils sont toujours convaincus que quand ils vont raconter leur histoire, on va leur dire oui. Et c'est non, encore une fois. Donc ils deviennent déboutés. Et on continue à voir encore cette fois derrière, parce que quand ils arrivent chez nous, éventuellement, une démarche qu'on va faire, c'est faire une demande de réexamen. Et souvent, quelquefois, on va leur expliquer, on leur dit, non, il ne faut pas faire une demande de réexamen, parce que ça va vous attirer plus d'ennuis qu'autre chose, il n'y a aucune chance que ça aboutisse, donc on va essayer une autre stratégie. Ah mais si, nous on veut faire une demande de réexamen. Il y en a qui font des demandes de réexamen contre notre avis, parce qu'ils ont toujours cette foi chevillée au corps, où ils se disent, c'est pas possible que ça ne m'arrive pas. Je voulais aussi... reprendre ce qui a été dit par le père sur le droit et puis l'histoire du délit de solidarité. Il se trouve que j'étais hier à Paris dans une conférence qui a été organisée par la conférence des évêques et qui était une journée de rencontre sur l'accompagnement des personnes déboutées. Et dans ce qu'on nous a dit hier, j'ai retenu une chose très intéressante que je voudrais vous partager sur la question du délit de solidarité. Le fait de commettre un délit de solidarité, il est dans le catéchisme de l'Église. J'ai noté ça quelque part, mais je ne l'ai plus là. Le catéchisme de l'Église dit clairement que si la loi dit une chose, mais que notre conscience et on estime que la dignité d'une personne est en jeu et qu'on ne peut pas accepter de rester dans le cadre de la loi, le catéchisme de l'Église nous dit clairement. Eh bien, allez-y, vous pouvez vous mettre en marge de la loi. Donc le délit de solidarité, il est, etc. Mais notre conscience aussi, elle doit nous pousser à franchir ce pas et à ne pas avoir peur, de se dire, allons-y. J'ai retenu aussi que c'était effectivement très important de construire un avenir pour ces enfants, que c'est des choses que nous faisons. Nous accueillons des familles avec des enfants et bien évidemment, nous avons d'innombrables occasions de constater à quel point ces personnes veulent construire, vont tout faire pour construire l'avenir de leurs enfants. Ils savent, eux, que leur vie va être sacrifiée quand ils vont arriver ici. Ils savent que, dans le meilleur des cas, ils vont avoir un titre de séjour qui va leur permettre de rester ici. Mais que de toute façon, plus jamais, ils ne pourront avoir la vie qu'ils avaient là-bas. Très souvent, les gens qui sont arrivés ici ne sont pas les plus pauvres. Ceux qui sont les plus pauvres, ils continuent à rester dans leur pays pour se faire massacrer ou discriminer ou subir tous les sévices qu'on peut imaginer. Ils n'ont pas les moyens, ni matériels, ni intellectuels, les réseaux qu'il faut pour pouvoir. Donc ils sont toujours là-bas. Ceux qui arrivent ici, ils sont ceux qui avaient très souvent un niveau social relativement élevé, qu'ils ne vont jamais retrouver quand ils arrivent ici, parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus, parce qu'ils ont un certain... tout ça, bon, ils ne vont pas retrouver. Donc, ils le savent. Ça leur est égal, parce que c'est leurs enfants, ils vont déployer toute leur énergie pour bâtir l'avenir de leurs enfants. Et ils vont, sans se plaindre, faire les boulots les plus dont personne ne veut ici. Hein, ils sont très souvent... les hommes se cassent le dos avec manœuvre, maçon... et les femmes vont faire du ménage que même les Français ne veulent pas faire, dans des conditions dans lesquelles on ne veut pas faire, sans jamais se plaindre. Et ils le font parce qu'ils veulent assurer un avenir à leurs enfants. Donc, c'était les différents points que je voulais relever, parce que je partageais la vie du père sur bien des choses. Alors, concrètement, donc nous... Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on fait, mais vous avez compris qu'on va surtout essayer de répondre aux besoins de base au départ. Et pour ça, je fais appel à tout le monde. Ceux qui sont là et qui ne nous connaissent pas encore, on a d'énormes besoins, j'en profite. En tout genre, on a trois ressources qui nous sont absolument indispensables pour pouvoir faire fonctionner, accueillir et continuer à accueillir. On a besoin de personnes qui viennent nous aider. Les ressources humaines sont très importantes chez nous parce qu'on fait un accompagnement des familles très proche, des accompagnateurs que nous appelons des référents, des personnes que nous formons pour accompagner les familles, le faire un accompagnement social, mais un accompagnement humain aussi. Et pour que ça puisse être fait dans des bonnes conditions, on s'arrange pour qu'une personne qui est un accompagnateur n'accompagne qu'une famille chez nous. Donc il en faut beaucoup, parce que nous accompagnons, ça varie, ça fluctue en fonction des années, mais entre 15 et 20 familles. Ça monte, ça descend. En ce moment, on se rapproche de la vingtaine à nouveau, ce qui représente une petite centaine de personnes. Donc ça fait beaucoup de monde qu'il faut accompagner, il faut vivre avec. C'est une expérience magnifique. Il y a certains référents qui sont dans la salle là, qui pourraient témoigner de la belle expérience humaine que ça peut être de rencontrer ces familles, ces enfants. On a aussi besoin de ressources en logement, puisque chaque famille est mise dans un logement. Nous n'avons pas le même système que les GRS. C'est un gros débat d'ailleurs, sur lequel on réfléchit de temps en temps. Est-ce qu'il vaut mieux héberger et puis on passe d'un hébergeur à un autre? Il y a une association qui est à Pau qui s'appelle Bienvenue 64 qui fonctionne sur ce principe-là. On se rencontre de temps en temps pour échanger sur les avantages et les inconvénients d'adopter un système ou l'autre. Nous avons opté pour le choix du logement dans lequel on essaye de laisser la famille le plus longtemps possible pour qu'elle se stabilise, pour qu'elle guérisse de ses blessures, pour qu'elle arrive à reconstruire son chemin. Donc ça, c'est le côté positif de laisser une famille dans un logement. La limite de ça, c'est que la dynamique migratoire dans laquelle ils étaient quand ils ont quitté leur pays et qui leur fait avoir des trésors d'inventivité, de créativité, les ressources qui vont aller puiser au fond d'eux-mêmes, cette dynamique migratoire, quand on les installe dans un logement et que forcément on les assiste, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de les assister, ils ne peuvent avoir accès à rien. Donc on est dans l'obligation de les assister dans une certaine mesure. La dynamique migratoire, malheureusement, nous le constatons à chaque fois, a tendance à s'effriter un petit peu. Donc nous essayons d'être très vigilants là-dessus, mais ça n'est pas toujours facile. Il y a des cas où on se rend compte, donc on se dit que la méthode de welcome peut éventuellement aussi être à réfléchir, mais je crois que personne n'a la bonne solution pour ça. Donc on a besoin de logements, puisque nous mettons une famille par logement. Ce sont souvent des familles assez importantes que nous avons, il y a une moyenne de 3 enfants, donc c'est des familles de 5, nous n'avons qu'une famille monoparentale, qui est une maman avec ses 4 enfants, qui a été déboutée. Je ne résiste pas quand même à vous dire qu'ils sont venus ici, ils sont partis parce que dans le pays dans lequel elle était, les enfants étaient en passe d'être enrôlés par Daesh. Elle est venue demander l'asile ici. On lui a dit non, rentrez chez vous. Vous n'avez qu'à demander à la police de vous aider. C'est bien évidemment la dernière des choses à faire. On a aussi, on est particulièrement révolté parce que c'est une famille qu'on a accueillie au mois de décembre. Une famille qui était déjà venue une première fois. Une famille qui vient du Kosovo. Avec une histoire terrible là-bas, avait été déboutée une première fois, avait décidé de ne pas rentrer. Les gens qui sont déboutés, il n'y a que 1% de ceux qui sont déboutés qui rentrent chez eux. Ils préfèrent mal vivre ici que de continuer à retourner subir ce qu'ils avaient subi. Donc avait décidé de rester ici, et rester pendant 3 ans, et commencer à être assez près de l'autonomie et de l'obtention d'un titre de séjour, quand, pas de chance, juste avant, ils se sont attrapés par la police aux frontières, et on les a ramenés de force. Tous les 5 au Kosovo où ils étaient, où les discriminations ont recommencé dans la seconde, et ils ont essayé de fuir, de se cacher au Kosovo, mais ça n'a pas marché. Ils ont fui, ils sont allés se réfugier dans plusieurs pays voisins, la Croatie, la Serbie, et puis un troisième pays, je ne sais plus lequel, où ils avaient demandé l'asile, qu'on leur a à nouveau refusé là-bas. Donc ils ont décidé de revenir en France. Donc ils sont revenus en France il y a un an à peu près, et ils ont refait une demande. Avec, cette fois-ci, ils savaient que pour avoir l'asile, il faut apporter des preuves. Voilà. Donc comme ils savaient, ils sont vraiment revenus avec des preuves. Et j'ai vu les photos avec le corps criblé de balles, il y avait leur fille aînée qui avait subi une tentative d'enlèvement. Ils avaient les preuves de tout ça, ils sont revenus, c'est à nouveau, non ? Déboutés à nouveau. Rentrez chez vous. L'illustration de l'arbitraire. Je reviens à mes logements, donc nos besoins en logement qu'on peut avoir. Donc si vous avez des possibilités à nous aider sur la question de logement, on est en recherche de logements mis à disposition bien sûr, mais on paye également des loyers dessus. On ne peut pas payer les loyers du centre-ville de Bayonne, on est en recherche de loyers solidaires. Mais si vous avez autour de vous des gens que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas, ne vous en faire pas. Et puis la troisième ressource, bien sûr, c'est les ressources financières, pour lesquelles je peux vous demander aussi de mettre tous à contribution. Je vous donnerai là à la fin, il y a un petit papier, on a mis en place une plateforme participative avec ce qu'on appelle une action 100 pour 1, qui dit que si 100 personnes s'engagent à mettre 5 € par mois, mais tous les mois, par prélèvement, on peut accueillir une nouvelle famille. 5 €, c'est pas énormément d'argent, d'autant que notre association a droit à une déduction fiscale de 75%. Donc pour ceux qui payent des impôts, ça ne fait que 1,25 €. Je vous invite à être ambassadeur de cette cause et en parler aussi. Il faut que beaucoup de monde s'engage à mettre ces 5 € par mois et c'est comme ça qu'on pourra accueillir de plus en plus de familles. Les visages de ces personnes, de ces familles, beaucoup de personnes qui viennent des pays d'Europe de l'Est, l'ex-bloc soviétique, comme la Tchétchénie, l'Ukraine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Russie, l'Ossétie du Sud, même une famille d'Ossétie du Sud, je pense que personne ne doit savoir où c'est, vous ne savez pas non plus, on l'a découvert en accueillant cette famille. Beaucoup de personnes qui viennent donc des Balkans, comme je l'ai dit, la famille, j'ai cité ça, la prochaine famille que nous allons accueillir, qui va arriver la semaine prochaine, est une famille où nous allons démarrer un nouvel exercice qu'on n'a jamais fait encore. C'est une famille qui a 3 enfants. Les 3 enfants sont lourdement handicapés mentaux et cumulent chacun plusieurs handicaps comme autisme, épilepsie, et retard mental. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui est le retard mental, apparemment, sur les 3 enfants, il y en avait, c'était déjà dans leur pays. Qu'est-ce qui a été déclenché après, en plus, par rapport à ce qu'ils ont vécu là-bas, ça, je ne sais pas, la part des choses, mais ils se retrouvent là. Et j'ai rencontré cette famille déjà, c'est très très impressionnant, parce qu'ils sont tellement... C'est tellement lourd, le handicap des enfants, qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Le Canada de Bayonne avait commencé à les mettre à l'école, c'est pas possible, ils sont trop handicapés pour pouvoir le faire, donc ils sont déscolarisés. Et les parents sont obligés de rester avec les enfants jour et nuit, tout le temps, parce qu'ils ne peuvent pas être sans surveillance. Ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Et donc les parents ne peuvent pas aller suivre des cours de français. La langue a été évoquée. Pour nous, c'est une priorité, bien sûr, de pouvoir faire qu'ils maîtrisent la langue le plus rapidement possible, pas seulement pour pouvoir communiquer, comme ça a été dit avec eux, mais pour pouvoir leur donner des outils humains de tisser des relations. Ils en ont besoin, bien sûr, pour avoir l'accès au travail, pour le jour où ils vont avoir le titre de séjour. On sait que grâce à nous, un jour, ils vont l'avoir. Donc, on espère qu'on va avoir ce même taux de réussite de 100% et de faire qu'ils vont tous pouvoir nous quitter en se débrouillant tout seuls. Mais pour ça, il faut effectivement, pour pouvoir travailler, il faut qu'il y ait la langue. Donc c'est à la fois un outil indispensable, mais c'est aussi une façon de prendre racine et de pouvoir s'installer bien dans notre pays. Donc les parents de cette famille-là ne parlent pas un mot. Ils sont en France depuis un an déjà et ne parlent pas un mot, contrairement aux autres familles où habituellement au bout d'un an ça commence à venir. Eux non, parce qu'ils sont obligés de rester avec leurs enfants tout le temps. Donc ça va être un exercice aussi. Je surveille le temps. J'ai 10 minutes. Non, c'est fini. C'est pas ça. 5 minutes. Je vous ai fait part de nos besoins, je vous ai dit qui ils étaient. Ils sont répartis, les familles sont réparties un petit peu partout au Pays Basque. J'ai cité Tardette, mais on a également des familles qui sont accueillies à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Sarre, à la dernière famille qui est allée à Saint-Pé depuis le mois de janvier, c'est à Saint-Pé. Là, on va avoir des familles à Bidart, on en a à Saint-Pierre-d'Irube, à Boucau, Bayonne, Biarritz, Urte. J'en oublie, mais un petit peu partout. Le sur notre façon de fonctionner, bon, je pense que c'est pas ça qui est le plus important, que je vous explique dans le détail de la mécanique, la façon dont on accompagne. Ce qui est important, c'est effectivement de bien comprendre l'esprit dans lequel on est et cette volonté que nous avons, nous aussi, de pratiquer une hospitalité dans tous les sens du terme, pas seulement une mise à l'abri, pas seulement le fait que les personnes vont pouvoir accéder à l'alimentation et à tous les besoins de base, mais pour que cette hospitalité qui a été très bien décrite par le père avant soit au cœur de nos préoccupations. Je pense que dans tous les bénévoles que nous avons, nous sommes pour le moment en bénévoles actifs, une cinquantaine à peu près, entre ceux qui font l'accompagnement, les référents, mais il y a aussi tous ceux qui font fonctionner l'association. Nous sommes une association extrêmement structurée, très cadrée et cadrante. On est très exigeant par rapport aux familles, parce qu'on est totalement convaincu que s'ils doivent s'intégrer, ils vont avoir respecté des règles et qu'on suit ce chemin-là dès le début, d'avoir des règles et de ne pas rentrer dans une espèce d'angélisme ou misérabilisme qui est de dire « Oh là là, les pauvres, avec tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant, c'est affreux, on ne va pas en plus leur imposer des choses et leur demander de faire ceci ou de faire cela ». On ne partage pas cette orientation ni cette philosophie. Pour nous, c'est très important que dès le début, il y ait des règles. Alors, des règles, ça ne veut pas dire un carcan, ça ne veut pas dire... Les règles ne doivent pas être enfermantes, elles doivent être un guide, elles doivent être comme un aveugle qui a besoin d'avoir des repères et de pouvoir avec la main tâtonner le mur pour voir où il va. C'est un peu la même chose. Ces règles sont édictées pour qu'il puisse ensuite s'en débrouiller tout seul. Mais on est extrêmement vigilant là-dessus. On signe des contrats avec les familles, pas seulement pour le logement, mais également des contrats sur la façon de vivre ensemble, les règles qu'eux vont avoir respectées, que nous allons avoir respectées. Nous, je dis alors, l'association prend des engagements aussi, et les référents prennent des engagements aussi. Et ce sont des contrats tripartites, sur lequel on échange avec eux, qui évolue dans le temps au fur et à mesure de l'accompagnement, et qui pour nous sont absolument indispensables au fait que cette intégration soit réussie pour eux. Donc l'association est très structurée pour que tout ça fonctionne, avec beaucoup de groupes de travail qui vont réfléchir, qui vont faire des relectures collectives des difficultés qu'on peut avoir avec les référents, avec des psys, avec des psychologues. On fait des supervisions, parce que bien sûr, vous pouvez imaginer que c'est souvent compliqué. Les gens que nous accueillons et que nous accompagnons sont des gens qui sont, je crois le mot n'est pas trop fort, dire ils sont fracassés, très très abîmés, physiquement, mais également psychiquement, parce qu'ils ont vécu. Et très souvent, l'ultime goutte d'eau, celle qui les fait basculer encore plus dans le désespoir ou la dépression, ça va être le fait qu'on leur dise non. Portés par cette foi et totalement convaincus qu'ils vont être accueillis, le moment où on leur dit non, c'est terrible, ça, pour eux. C'est un déni d'humanité qu'on peut imaginer à quel point il est difficile. Tout d'un coup, ils doivent réaliser qu'ils n'ont plus de place sur Terre. On ne veut pas d'eux ici. Ils ne peuvent pas retourner chez eux parce qu'ils vont se mettre en danger et leurs enfants, même si eux, souvent, étaient décidés à le faire. Ils ne veulent pas prendre ce risque-là à leurs enfants. Ils n'ont plus de place sur Terre. Ils n'existent plus. C'est comme s'ils étaient rayés de la surface de la Terre. C'est une blessure qui est très souvent la plus épouvantable et qui débouche sur des processus mentaux qui sont surprenants. La conférence où j'étais hier, il y avait un intervenant qui était très intéressante, c'est une association qui s'appelle Primo Levi, qui accompagne des personnes qui ont subi des traumatismes pendant la guerre au départ, mais ensuite c'était les autres guerres, le Rwanda, et qui racontait à quel point maintenant dans les lieux d'accueil qu'ils ont, ils sont embolisés complètement par les déboutés. Et que eux voient à quel point c'est injuste. Parce que en les accompagnant, les soignant, ils comprennent pourquoi ils ont été déboutés. Et souvent, ils ont été déboutés parce que On les a traités de menteurs, on n'a pas cru leur histoire. Et pourquoi? Parce que plus ils sont abîmés, plus ils font des récits incohérents. Et plus on les épingle là-dessus. Alors que le gars qui arrive avec son histoire bien fabriquée de là-bas et toutes les preuves, celui-là, ça passe. C'est souvent pas le plus abîmé. Le plus abîmé, c'est vraiment celui qui a occulté, a été obligé d'oublier tellement les blessures sont affreuses. La dame qui intervenait racontait l'histoire d'une maman qui avait 5 enfants, et quand elle est passée devant le juge, quand on lui a demandé de raconter son histoire, elle ne parlait que de 3 enfants. Et on lui disait, mais et les autres, vos 2 autres enfants, comment ils s'appellent? Non, j'ai 3 enfants. Mais madame, vous avez là vos papiers, vous avez 5 enfants. Non, j'ai 3 enfants. Donc elle a été déboutée à cause de ça, menteuse. Elle est passée au centre Primo Levi, et où après des mois de thérapie, ils ont fini par comprendre qu'est-ce qui s'était passé. C'est que cette maman avait subi dans son pays et sur le parcours après d'innombrables viols. Elle avait été battue, violée à plusieurs reprises, et les 2 enfants, sur les 5 enfants, il n'y en a que 2 qui avaient assisté à toutes ces scènes-là. Et c'est cela dont elle ne se souvenait plus. Parce que pour elle, c'était insupportable d'avoir à se souvenir que ses enfants avaient vu ce qui lui était arrivé. Elle venait d'un pays et d'une culture où c'est extrêmement dégradant d'être violée. On est stigmatisé quand on est violé, on n'est pas une victime. Là-bas, on devient un rebut de la société. Et elle était dans cette culture-là, et que ses enfants aient vu ça, pour elle, c'était pas supportable. Donc, pour pouvoir survivre, il a fallu qu'elle efface de sa mémoire ses 2 enfants. Ça illustre un peu à quel point les personnes que nous accompagnons sont très abîmées et très fracassées. Je finis, je termine. On a perdu le fil, pourquoi j'ai raconté cette histoire-là. Mais à chaque fois,
c'est la construction du discours devant le juge. C'est-à-dire que plus la personne était abîmée, moins elle pouvait faire un discours cohérent, et plus moins son dossier...
Et effectivement, je disais tout ça pour dire à quel point souvent l'accompagnement que nous faisons, ce sont les mêmes personnes, nécessite énormément de cet amour, de cette hospitalité, de cette bienveillance, de cet accueil, tout ce qui a été évoqué par le Père avant nous. C'est aussi une magnifique expérience pour nous, une magnifique expérience humaine de pouvoir... échanger avec, bénéficier de la richesse que nous apportent toutes ces personnes. Et on ne redira jamais assez que les migrants ne sont pas un problème, mais une richesse et souvent une solution en plus pour bien d'autres problèmes. Et ça, c'est un autre débat.